savons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. Midi et des poussières viennent de sonner dans le sud de la Lozère et c'est l'heure de ce rendez-vous consacré aux initiatives, événements et paroles locales sur Radio Barthas, bien sûr, 107FM et radiobarthas.net. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, dans cette émission, on va aller visiter une exposition dans une fromagerie, la fromagerie du Fédou, qui organise son premier événement culturel pour mettre en avant les éleveuses et les éleveurs du Cosmégen avec qui il travaille. On ira aussi se plonger dans les bas-fonds d'un club de tennis de table new-yorkais des années 50, décor du film Marty Suprême de Josh Safdie à l'affiche des écrans Cévenol grâce à Cineco. Mais d'abord, on commence tout de suite avec de la danse. Muriel Auger vient d'entrer dans ce studio en une gracieuse arabesque avant d'effectuer un petit entrechat sur demi-pointe. Bravo Muriel et bonjour.
Bonjour.
Alors tu es professeure de danse pour l'association Ballet Brosse à Florac.
Oui, tout à fait.
Alors tu fais de l'initiation au classique, surtout danse contemporaine et aussi initiation danse urbaine, c'est ça ?
Tout à fait, oui. On a beaucoup de types de cours et de tout âge.
Et donc, tu es venue aujourd'hui pour nous annoncer certaines actualités qui concernent donc l'association Ballet Brosse à Florac. Tu voulais nous parler d'un appel à projet qui est un appel à projet national auquel vous avez répondu. C'est le DAR. Qu'est-ce que ça veut dire, DAR ?
Alors, DAR, c'est le sigle pour danse en amateur et répertoire. C'est un projet, un dispositif national porté par le Centre national de la danse. Et on fait un travail, en fait, sur des pièces de répertoire. C'est-à-dire que si on veut participer, on monte un dossier, on demande à travailler sur une pièce de répertoire qui doit avoir, du coup, à environ une dizaine d'années. Et une certaine renommée portée par un chorégraphe connu. Et si le dossier est accepté, on est en partie financé par le Centre national de la danse et on a 40 heures avec un intervenant qui est soit le chorégraphe de la pièce, soit un des interprètes.
Et qui vient donc en tant qu'intervenant pour donner des cours aux élèves de l'école.
C'est de la transmission. En fait, il va nous transmettre un extrait de cette pièce où... faire retravailler le processus chorégraphique et créer en fait une nouvelle pièce à partir des matériaux de départ, de création.
Et donc c'est aussi l'idée de faire un peu vivre le patrimoine de la danse, c'est ça ?
Il y a quelques années, dans les années 80, fin des années 80, 90, c'est vraiment posé la question de comment maintenir vivant le patrimoine de la danse, parce que c'est quand même un art éphémère. Alors on a la possibilité de l'écrire, hein, il existe des partitions.
Il y a beaucoup on peut retranscrire les chorégraphies.
Tout à fait. Il y a des partitions, des notations en fait. Il y a des gens dont c'est le métier d'être notateur en danse.
Et ça doit être un beau métier.
C'est un beau métier. Après, c'est super compliqué.
Parce que comment on retranscrit ça ? C'est avec des petits schémas, des petits symboles.
Tout à fait. Ouais. Il y a des symboles qui représentent les jambes ou les bras, les directions. Il y a le tempo aussi. Donc, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a par exemple la notation Laban. Et on a besoin de plusieurs années pour l'apprendre. Et après, il y a beaucoup de transmissions aussi de danseurs à danseuses. Et puis, il y a la vidéo qui est apparue. Mais c'est vraiment poser la question de comment transmettre le patrimoine, qu'est-ce qu'on fait du patrimoine de la danse, comment on le rend encore vivant, et ça permet de créer du lien entre le monde professionnel et les amateurs. Donc, ce dispositif a été mis en place. Et nous, c'est la sixième fois qu'on y participe. Donc, en fait, on était les plus anciens. On est l'association qui a le plus participé à ce dispositif. Et d'ailleurs, cette année, ça a été signifié lors des rencontres nationales, dont on rentre juste.
Elles étaient où, les rencontres ?
Alors, les rencontres étaient à l'Agora, Cité internationale de la danse à Montpellier, où on était accueillis depuis samedi et dimanche pour ces rencontres nationales danse amateur et répertoire, où il y avait 8 groupes qui ont travaillé chacun sur une pièce différente. Et on présentait, en fait, nos restitutions à l'Agora, dans la cour des Ursulines, samedi soir, et dimanche en ville, dans des lieux non dédiés pour la danse. Donc nous, on a dansé à Nouvelle Place Max Rouquette, en dessous des arceaux. C'était super beau.
Pour ceux qui connaissent Montpellier.
Voilà, c'était très beau.
Et vous avez dansé quoi alors ?
Alors,
c'était quoi ?
On a travaillé sur une pièce de Christian Rizzo, qui est l'ancien directeur du Centre chorégraphique national de Montpellier, justement. Et cette pièce s'appelle « D'après une histoire vraie ». C'est une très belle pièce et l'intervenant, c'était Pep Garrigue, donc un des danseurs de la pièce, qui est venu nous faire travailler 40 heures et on a rajouté 10 heures en fait. Ballet Bros a voulu 10 heures supplémentaires pour ce projet-là.
Et donc il s'était déplacé jusqu'à Florac pour ces 40 heures.
Tout à fait. Donc en fait, on a travaillé sur plusieurs week-ends. En gros, il y a eu 3-4 week-ends avec Pep qui vient de Paris et qui est encore danseur en activité. Hein. Donc du coup, en termes de planning, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais c'était une rencontre extraordinaire. Il y a 15 personnes qui ont participé à ce projet, 15 danseurs et danseuses de Ballet Bros. Et on a fini avec, on a une pièce d'une quinzaine de minutes. Donc on a présenté à l'Agora samedi, dimanche en ville, et qu'on représente deux fois à la fête de Ballet Bros dans chacune des parties.
On va parler tout à l'heure de cette fête de Ballet Bros, c'est aussi une des raisons de ta venue, mais pour rester encore un peu sur ce projet donc, d'art, danse en amateur et répertoire, donc là vous venez de candidater pour la prochaine édition. Enfin, déposer votre dossier.
On a déposé le dossier l'an dernier et là, on a fini, en fait, c'est terminé. Le DAR est terminé puisqu'on a fait les rencontres ce week-end.
D'accord, mais je croyais qu'il y avait un nouvel appel à projet qui
était
lancé.
Alors, chaque année, il y a des appels à projet, mais là, nous, on ne va pas reparticiper tout de suite parce que ça serait compliqué d'être sélectionné 2 ans d'affilée. En fait, ils ne sélectionnent pas 2 ans d'affilée. Nous, habituellement, on candidate tous les 3 ans. On fait une année off. Une année l'appel à projet et l'année suivante, du coup, le projet. Parce que la candidature est un an avant l'année où on travaille vraiment.
D'accord, donc on candidate et ça s'étale sur 2 années en
tout
fait.
Tout à fait, le travail autour de ça s'étale sur 2 années. Et moi, en fait, sur ces projets-là, je suis référente. C'est-à-dire que je porte le projet soutenu, bien sûr, par le CA de Ballet Bros, par les autres professeurs de danse de Ballet Bros, parce qu'on est plusieurs dans l'équipe, et les personnes qui désirent s'investir là-dessus. On monte ce dossier, et puis après, pendant la durée du projet, je suis la référente, c'est-à-dire que je suis présente à toutes les répétitions, je fais des comptes rendus de répétition pour les participants et les participantes à la suite, et c'est moi qui suis en lien avec l'intervenant pour l'organisation, l'administratif, etc.
Et donc, c'est subventionné. En fait, c'est les fonds de cet appel à projet qui permettent de rémunérer l'intervenant qui vient, de le loger et tout ça.
Alors, en fait, normalement, la subvention du Centre national de la danse doit couvrir les 50 heures avec l'intervenant plus une partie du déplacement du groupe aux rencontres nationales. Et après, bien sûr, ça ne couvre pas tout, parce que c'est quand même des projets assez onéreux. Et donc après, on fait des demandes de subventions ailleurs. Cette année, on a eu la grande chance d'être accepté par le département. Donc on a eu une subvention du département. Et puis, on fait appel à nos fonds propres aussi. Et une petite participation, mais la moins possible, des participants et des participantes.
Un beau projet, donc, danse en amateur et répertoire, que on pourra voir, donc, à Florac. Le résultat, c'est le 29 juin,
la fête. Le 27 juin.
Ah,
samedi 27 juin.
Pardon. Samedi 27 juin, donc, c'est la grande fête annuelle de Ballet Bros. Alors, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, pour la fête de Ballet Bros, on propose un spectacle en 2 parties. On a une première partie enfant-ados à 17h à la Jeunette Verte, où il y a quand même le DAR, donc, ce projet-là, qui est présenté. Enfin, parce qu'on trouve que c'est important que les enfants puissent voir les projets adultes aussi, quand c'est des projets chorégraphiques d'une envergure un peu particulière, sur de la danse contemporaine. Voilà, on aime bien le présenter aussi aux enfants. Après, on fait une pause repas, et là, on a une proposition de petite restauration, mais aussi, pour ceux qui veulent, un pique-nique partagé, voilà, devant la jeunette. Et la deuxième partie est à 20h30, et là, c'est ado-adultes. Et là, il y a plusieurs groupes qui présentent différentes chorégraphies. Et on redanse le projet danse amateur et répertoire aussi à ce moment-là.
Et donc, c'est les spectacles de fin d'année, ce sur quoi les élèves ont travaillé pendant l'année à Belle et Brosse.
Oui, alors c'est vrai que nous, on aime bien ne pas commencer trop tôt le spectacle de fin d'année. Il y a des associations ou des écoles de danse ou des conservatoires qui travaillent toute l'année, en fait, sur le spectacle. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu fastidieux ou l'objectif est un peu trop prégnant après sur toute la dimension pédagogique et artistique auprès des élèves. Donc nous, souvent, on commence après les vacances de février à préparer le spectacle. Et donc, on a tous les cours qui vont travailler dessus. Et c'est vrai que donc on présente des chorégraphies avec aussi bien l'éveil corporel, les enfants de 4-6 ans, que avec les adultes, et aussi bien les cours techniques que les ateliers chorégraphiques ou des fois des projets un petit peu plus spécifiques ou des surprises.
Et donc c'est aussi l'occasion pour tout le monde de vous voir, de vous rencontrer, de voir ce qu'on fait dans les cours de Belle et Brosse et de s'inscrire éventuellement pour l'année prochaine.
Oui, tout à fait. On est là tout le temps à partir de la semaine, du vendredi 26, on est à la Genette Verte en répétition, etc., etc. On est assez accessible, il y a toujours des gens de Belle et Brosse, des bénévoles, les membres du CA qui sont là pour accueillir le public, discuter, prendre du temps. Et après le spectacle, on fait toujours une boum. Voilà, on a toujours un moment pour danser ensemble et puis profiter, discuter, passer du temps ensemble.
Et donc ça, ce sera aussi la boum dans la salle de la Genette.
Alors, on espère qu'il fera assez beau pour être sur le parvis. Voilà. Et faire que le spectacle dans la salle de la Genette, en fait.
Ok, et donc on va sortir les enceintes et mettre la musique dehors.
Tout à fait, c'est ce qui se passe. On a la chance d'avoir une de nos adhérentes et élèves, Victoria, qui a pris ça en main et qui nous prépare une super playlist.
Génial. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Hâte d'être à cette fête-là. Est-ce qu'il y avait autre chose à annoncer?
Juste dire que tout le monde est bienvenu. Que même si vous n'aimez pas la danse ou même si vous n'êtes pas danseur ou danseuse, ben vous êtes quand même bienvenue. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Belle et Brosse sans être danseur, sans être danseuse et qui sont tombés en amour de la danse et du mouvement. Et que voilà, on est très content d'accueillir tout le monde et on est très 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 fiers du travail et de nos élèves cette année et de tout ce qu'on a pu faire. Donc on tient à remercier tous les professeurs. Donc Isa, Lise, notre intervenant extérieur Pedro et tout le CA et les bénévoles de Belle et Brosse. Voilà, merci à tous.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à toi, Muriel. À très bientôt.
Au revoir. I'm praying that's the way that it goes. Cause right when I'm about to turn the doorknob, it seems all locked up and the key decomposed. Remind me this the life that I chose. Go full speed, I can't read the signs that say stop. I brush it off and try to act all nonchalant. Yeah, I notice everything, I just act like I don't. Boy, I know what I want. I'm praying that's the way that it goes. Cause right when I'm about to turn the doorknob, it seems it's all locked up and the key decomposed. Remind me this the life that I chose. Go full speed, I can't read the signs that say stop. I brush it off and try to act on it so long. Yeah, I notice everything, I just act like I don't. I know what I want.
C'était Kali Uchis à l'instant avec ce tube Know What I Want, sorti en 2015, mais qu'on aime toujours autant, qui est toujours aussi bien.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Et oui, il est toujours midi et des poussières sur Radio Barthas et je vous amène dans quelques instants sur le Cosmejean à Yelzas où, à l'initiative de Florence et Vincent Pralon, la fromagerie du Fédou se transforme en lieu d'exposition. En partenariat avec la résidence d'artistes Le Four à Pain à Cossignac et dans le cadre de l'année de l'agropastoralisme 2026, le Fédou a souhaité mettre en avant les éleveurs et les éleveuses du Cos avec qui il travaille et il a donc proposé à Thomas Rotet, photographe et ethnologue, de mener un travail photographique et sonore autour de l'élevage. Cela donne une exposition intitulée « Élevé sur le Cosmejean » qui est à visiter sur place à Yelzas jusqu'au 31 décembre. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, sachez qu'un livret accueillant les photos de Thomas Rotet est aussi disponible et vous y trouverez un QR code vous permettant d'accéder à un documentaire sonore réalisé par Thomas Rotet et mis en musique par Maxime Moutombo avec des témoignages des éleveurs et des éleveuses qu'il a rencontrés sur le Cos. Je mettrai le lien sur la page de l'émission sur le site de Radio Barthas. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir la visiter, cette exposition au Fédou, en compagnie de Thomas Rotet, qui m'a parlé de son travail et de sa relation aux éleveuses et aux éleveurs qu'il a rencontrés. Et avant ça, j'ai échangé avec Florence Pralon, qui est donc la directrice de la fromagerie. Et pour elle, il est essentiel de donner à voir et à entendre le travail des éleveurs, de le faire connaître, de le mettre en valeur dans un contexte où il fait face à de nombreux dangers, et notamment la prédation. Je l'ai retrouvée sur la terrasse de sa fromagerie, Florence Pralon. Donc on est chez vous dans la fromagerie Le Fédou. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'endroit ?
Alors pour décrire l'endroit, on est au bord du Cosmejean, au-dessus des gorges de la Jonte. En face, on voit le Cos noir, au loin le Larzac et puis les montagnes bleues derrière.
Alors ici c'est une fromagerie, mais c'est aussi là pour la première fois un lieu d'exposition.
Alors c'est un lieu d'exposition, c'est un lieu qu'on a voulu convivial, de rencontre et puis d'échange. Et dans l'échange, il y a aussi la connaissance. Donc la connaissance du métier des éleveurs, ça peut passer par la photo, par le son, par les témoignages qu'ils ont laissés ici.
Donc là, c'est la première fois qu'il y a une exposition ici, mais vous comptez en refaire d'autres ?
Oui, c'est la première fois. Ben, on souhaite que ce soit la première d'une longue. Et c'est vrai que c'est beau d'avoir cette collaboration avec Thomas Rotet et le Four à Pain Marie Descourtieux qui nous permet d'avoir à la fois un aspect artistique, un accompagnement, et en même temps, on est vraiment dans le cœur de notre métier, les éleveurs, la production de lait sur le Cosmejean, dans un milieu très très particulier, qui est façonné par les hommes et les brebis depuis des millénaires.
Et vous avez l'impression que justement ces métiers-là, ce rôle-là que vous avez sur le Cos est méconnu, pas assez reconnu ?
Oui, il est méconnu. Déjà le métier d'agriculteur est méconnu. Donc le métier d'éleveur sur le Cosmejean, le coin le plus reculé, le plus perdu de France, est encore plus méconnu. Il est beaucoup fantasmé et pensé par des gens qui n'y vivent pas. Et c'est bien de pouvoir faire se rencontrer des réalités qui sont vécues par les éleveurs, par leurs brebis, tous les jours, tout au long de l'année, au fil des saisons. Et de faire dialoguer les éleveurs, leurs pratiques, avec des gens qui ont beaucoup d'idées dessus, mais qui ne les vivent pas au quotidien.
Et là, la pratique, c'est l'agropastoralisme, justement. Aujourd'hui, c'est l'année de l'agropastoralisme. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour cette année ?
Le pastoralisme est là depuis des millénaires et il est en danger. Donc, le fait de le mettre en valeur, ça peut être aussi une manière de le protéger pour qu'il perdure. Parce que ces milieux-là, le Cosmejean, il a été façonné depuis le néolithique par des éleveurs. Et avec leurs troupeaux, avec la pression pastorale qui fait qu'on a certaines plantes qui se développent et moins d'autres, que le paysage il est ouvert, il y a peu de bois, il y a beaucoup d'espaces de landes qui sont pâturés et que le passage des brebis a un impact sur cette biodiversité qui pourrait complètement changer quand le milieu se ferme et qu'il n'y a plus d'élevage, qu'il n'y a plus de brebis. Cette intrication entre les hommes, le paysage, les brebis, le terroir, c'est cette spécificité-là et c'est ce qui ressort dans l'exposition et c'est ce qu'on a envie de partager.
Vous dites qu'il est en danger. Le plus gros danger qui pèse actuellement, c'est la prédation.
Le plus gros danger, c'est la prédation, parce que on a appris aux loups à plus avoir peur des hommes et à s'approcher des troupeaux. Quand il y a un troupeau, c'est open bar, donc c'est plus facile d'aller courir d'après des brebis qui sont apprivoisées que qu'après des animaux sauvages. Donc si en hiver, le loup, quand les brebis sont en bergerie, les loups vont s'alimenter auprès de bêtes sauvages, bah, dès que les brebis sortent, c'est quand même plus facile. C'est comme tout un chacun. Tout le monde va plus facilement au supermarché que cueillir des champignons. Bah, le loup, il fait pareil.
Et donc vous travaillez avant avec 10 éleveurs, et il y a déjà un des éleveurs avec lesquels vous travaillez ici qui a arrêté à cause de ça, justement, à cause du loup.
Oui, on a un éleveur qui a arrêté l'année dernière à cause du loup. On en avait déjà un qui avait arrêté en 2015 à cause de ça. Donc ce n'est pas le premier. Il y en a qui se questionnent. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la méconnaissance par ceux qui protègent le loup, de l'impact que ça a sur les troupeaux, sur la difficulté à protéger, malgré tous les moyens de protection qui sont difficilement mis en œuvre, possible de mettre en œuvre sur des grandes surfaces. Et en fait, la présence de prédateurs, ça favorise un élevage intensif qui n'est pas celui qui correspond à notre région. Donc des brebis en bergerie, des brebis qui ne peuvent plus sortir la nuit, qui doivent être surveillées, mais même avec des bergers et des patous, on se rend compte qu'il y a des prédations quand même. Donc c'est très compliqué, donc il y a un danger, et on a besoin qu'il soit connu et qu'il y ait des voies de solution pour que l'élevage perdure.
Vous faites, il y a aussi un impact sur le moral des éleveurs, c'est pas que sur les troupeaux et le nombre de bêtes, c'est aussi sur les éleveurs eux-mêmes.
Ah ben, il y a un impact certain sur les éleveurs, évidemment, parce qu'ils sont attachés à leurs bêtes. Et même si on dit que les bêtes vont à l'abattoir in fine, c'est pas la même chose d'avoir vécu 7 ans pour une brebis ou 8 ans et puis d'arriver en fin de parcours où de toute façon sa viande sera valorisée et elle sera honorée par des repas partagés que d'être abattue assez sauvagement. Manger ou pas manger, puis toutes celles qu'il faut abattre et qui finiront à l'écarissage et qui ne seront pas non plus valorisées ni honorées. Donc c'est vrai que c'est traumatisant pour l'éleveur, c'est traumatisant pour les enfants. Quand ils voient rentrer des bêtes qu'ils ont vues naître et qui ont les tripes dehors ou à qui il manque un gigot, c'est sûr qu'ils ont du mal à comprendre. Alors il y a un travail qui est fait par la MSA, mais ça ne suffit pas. Et ça fait quelques années que je dis, moi je suis responsable en tant que chef d'entreprise de la santé mentale des personnes qui travaillent ici, au moins dans le cadre de leur travail. Et qui se préoccupe de cette pression, de ce stress, de cette santé mentale des éleveurs et de leurs enfants, avec ces questions de prédation qui viennent de plus en plus fortes et qui font mal tourner certaines personnes, voire qui peuvent représenter un danger, parce qu'un jour, quelqu'un peut retourner un fusil contre lui ou contre quelqu'un d'autre à l'extérieur.
Est-ce qu'il y a des perspectives de dialogue, des rencontres qui vont arriver, ou peut-être les éleveurs, vous pourrez être entendus sur cette question ?
En tout cas, je le souhaite. On espère, mais c'est compliqué. Donc, souhaitons que l'année de l'agropastoralisme, ce soit l'occasion de rencontres. Et c'est vrai aussi que l'exposition telle que là aujourd'hui et les visites de fermes telles qu'on les fait depuis quelques années, et c'est ce qui nous avait incité à les faire, l'objectif, c'est d'arriver à se parler et à se comprendre et à faire comprendre la réalité simple, mais que beaucoup de gens ont du mal à comprendre parce qu'ils ne la connaissent pas, tout simplement.
Merci.
Merci beaucoup.
Je suis photographe, auteur et ethnologue, et puis j'ai été convié par la fromagerie du Fédou et la résidence Le Four à Pain à mener un travail dans le cadre de l'année 2026 sur l'agropastoralisme, sur les éleveurs et éleveuses qui travaillent pour la fromagerie. Le projet, c'était de la fromagerie, c'était de mettre en lumière le travail des éleveurs. Et donc, ils ont été sensibles au travail que j'avais déjà mené. Et donc, la proposition, c'était donc de faire des portraits, recueillir leurs témoignages et puis documenter les gestes du quotidien de leur travail. Donc, il y avait 8 éleveurs. Et puis, petit à petit, nouer une relation et puis recueillir des des témoignages, leur demander de se prêter à l'exercice du portrait et puis passer un peu de temps avec eux. Voilà. Donc il y a certains que j'ai pu voir 2-3 fois. Et puis à partir de cette collecte de sons, de témoignages, ça donnait un lieu à un documentaire de 52 minutes qu'on a partitionné pour les besoins de l'exposition qui permettent d'avoir un témoignage. Voilà, donc c'est une sorte de constellation. Enfin, évidemment, ils sont tous liés par un travail commun, mais chaque bergerie amène une histoire différente, une façon d'appréhender le métier différemment, et puis des problématiques différentes d'éleveurs qui s'inscrivent dans le sillage d'une tradition ancestrale, de génération, de nouveaux arrivants, des problématiques très différentes. Voilà. Donc trois formes d'écriture, il y a le son, il y a la photographie, donc là avec trois formats différents, tous les portraits ont été faits à l'argentique, à la chambre, moyen format, toutes les formats panoramiques, paysages sont faits aussi à l'argentique, et tout ce qui a trait à plus à la documentation de leur quotidien en numérique, donc trois formats. Donc ça c'est sur le travail d'image, on fait le travail sur le son, et puis ensuite il y avait l'idée de travailler sur un peu l'écriture et un support de restitution sous forme de livret avec des éléments biographiques et puis une ligne narrative qui court de page en page presque sans ponctuation, qui est une libre interprétation des propos des éleveurs et voilà.
Et est-ce qu'on peut peut-être aller devant des photos et puis vous nous parler peut-être de certains des éleveurs, éleveuses?
Là on est donc pour décrire l'image, donc j'accompagnais Fanny et Stéphane qui à la sortie de l'hiver sortaient pour la première fois les brebis, c'était peut-être la deuxième ou la troisième fois qu'ils sortaient les brebis, et à partir du moment où ils décident de sortir les brebis, il va falloir que le processus se répète de jour en jour, il ne peut pas être stoppé. Et donc là, on avait réussi à caler un moment où moi j'étais là et on puisse sortir, parce que le travail que j'ai fait a été surtout fait entre l'automne et l'hiver. Et donc on avait beaucoup d'images à l'intérieur des bergeries, mais peu d'images en extérieur. Et c'était un peu un paradoxe pour traiter de l'agropastoralisme, qu'il fallait bien qu'on sorte de la bergerie. Voilà. Donc là, c'est une sortie. Après, là, c'est des photos donc on décrit, on voit plein d'un gros regroupement d'agneaux, et puis là il y a Émilie qui est en train donc c'est la période majeure aussi, c'est la période de l'agnelage qui concentre une activité très importante pour les éleveurs, une sorte de mobilisation jour et nuit pour veiller à ce que toutes les naissances puissent se passer bien. Cette image là, donc c'est on est au Trescol, c'est au-dessus du Gaec de Nivolier. Et en fait, c'est dans ce travail-là, la première image que j'ai faite, où Émilie qui m'a proposé de l'accompagner un matin aux sorties de la bergerie, où elle amène le troupeau sur ce col. Et voilà, c'était un moment assez magique. Avec l'apparition solaire, il y avait une lumière assez chouette. Et puis d'être tout sur le trajet, qu'elle puisse là, sur ce temps-là, partager avec beaucoup de sensibilité son choix de devenir éleveuse et de revenir au pays. Voilà, c'était un moment sympa. Voilà.
Et pourquoi le noir et blanc ?
Le noir et blanc parce que... Ouais, je suis toujours à la recherche d'une réponse intelligente à cette question. Je ne l'ai toujours pas trouvée, mais bon, y a une part de sensibilité... à ça, et la couleur nous ramène, et je sais pas, j'aime bien la couleur, hein. Il y a des photographes qui font des boulots fabuleux, mais la couleur me ramène plus à quelque chose de contemporain, et que le passage par le prisme du noir et blanc, il y a comme quelque chose qui enlève de la temporalité du présent et qui nous engage dans quelque chose de où le temps est un peu plus fluide, quoi, ou plus évanescent. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Non, mais après, voilà, il y a différents points importants, mais il y a un sujet qui revenait et qui est délicat à aborder parce que c'est un sujet qui est extrêmement clivant et qui est souvent abordé dans une perspective du pour ou contre, et qui est la question de la présence du loup et de comment cette présence irrigue la vie des éleveurs au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas seulement non plus sur le temps de travail, c'est-à-dire que ça devient une préoccupation majeure. Et donc avec des intégrations fondamentales sur le sens de leur travail, sur la continuité qui est questionnée de l'élevage. Certains envisagent d'abandonner l'élevage. Et de témoignages que j'ai eus d'éleveurs et d'éleveuses qui ont été attaqués et qui restituent le traumatisme que c'est de vivre ce... Voilà. Donc c'est une question quand même qui revient, qui est abordée avec beaucoup de précaution et de prudence, mais on voit que c'est un souci majeur pour eux, quoi. Voilà.
On entendait le très beau morceau de Marc Melia, Cloud Song, paru sur son album Music for Prophet en 2017 et qui nous a permis de redescendre tout doucement depuis le Cosmejean jusqu'au studio Floraqua de Radio Bartas où se poursuit cette émission car il est toujours midi et des poussières sur le 107 et nous sommes mercredi, c'est le jour de la traditionnelle chronique Parlons Ciné avec Cinéco.
Parlons ciné
avec Cinéco,
la rubrique cinéma de Cinéco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes, sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi David pour cette chronique Parlons ciné avec Cinéco, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et tous.
Alors aujourd'hui David, tu vas nous parler du film Marty Suprême.
Oui, tout à fait, un film qui a été réalisé par... Le cinéaste américain qui s'appelle Josh Safdie, Joshua, son vrai prénom, Josh pour son surnom, avec dans le rôle titre le Timothée Chalamet. Alors pour vous parler, vous donner en quelques mots l'histoire, ce film met en scène un jeune homme qui s'appelle Marty Mauser et qui est quelqu'un qui a une ambition démesurée. Et vous allez le voir dans le film, il est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Alors, si en d'autres termes, on résume, c'est aussi l'histoire d'un jeune homme juif sans le sou, mais qui est très débrouillard, vous allez le voir, et qui est sûr de lui et qui veut devenir un champion de ping-pong dans le New York des années 50. Marty Suprême, c'est donc un peu le récit rocambolesque d'une fuite en avant, celle d'un jeune homme pas franchement agréable, orgueilleux, souvent inconséquent, mais qui veut sa part de rêve américain.
Et alors, comment est né ce projet, cette idée de film? Est-ce qu'on le sait?
Alors en fait, Marty Suprême trouve ses racines dans un moment inattendu de la vie du réalisateur, alors qu'il était absorbé par la production de Uncut Gems, un de ses précédents films, c'est un thriller qui est sorti en 2019, sa femme découvrit un livre poussiéreux écrit par un certain Marty Reisman, qui est un prodige new-yorkais du tennis de table. Alors, le réalisateur ne s'est pas tout de suite penché dans la lecture de ce livre. Bon, il l'a mis de côté et ensuite il a quand même été inspiré par l'histoire de cet outsider audacieux. Et c'est ce coup de foudre pour un récit oublié qui a ouvert la voie à la création du film.
Et alors, le film, ça traverse pas mal de lieux différents dans ce monde. C'est un peu une aventure internationale.
Oui, c'est un peu un tour du monde et c'est ce qui fait un de ses charmes, c'est que vous allez traverser des décors variés, passant de Manhattan, bien entendu, aux pyramides égyptiennes, mais aussi une petite escale dans un bistrot parisien et puis pour certains matchs à Londres. En embrassant ces paysages hétérogènes, le réalisateur a cherché à souligner l'universalité de la quête de son protagoniste. Chaque lieu a été choisi pour sa capacité à contraster avec le modeste début du joueur, reflétant ainsi son rêve démesuré, comme un peu une métaphore de sa personnalité, je trouve.
Et donc, pour faire ce film, le réalisateur, donc Josh Safdie, il a découvert tout un monde méconnu et oublié.
Et oui, c'est là où il s'est documenté, et il ne connaissait pas cette période new-yorkaise où le tennis de table a fait naître une véritable sous-culture peuplée de magouilleurs, de génies et de marginaux. On pratiquait cette discipline dans des salles clandestines enfumées, au cours de fêtes organisées sur les terrasses des immeubles, dans les auberges de jeunesse, des dortoirs, des prestigieuses universités de la côte est du pays et les immeubles du sud de la ville. Parmi ces outsiders, ces êtres sans scrupules, on peut dire que les réalisateurs et son co-scénariste ont découvert un nouveau territoire pour laisser libre cours à leur passion pour les personnages faillibles et les univers interlopes. Et c'est voici un... Tu vas citer un extrait, un des propos du réalisateur.
Oui, je me fais la voix de Josh Safdie pour cette chronique. Alors, il a dit « Les gens qui brillaient au tennis de table étaient souvent ceux qui ne trouvaient leur place nulle part ailleurs. La discipline n'était pas respectée et attirait des types louches, des puristes, des obsessionnels. Quand j'ai découvert que le tennis de table remplissait des stades au Royaume-Uni et partout en Europe, j'ai compris qu'il était parfaitement crédible qu'un jeune homme, en 1952, soit convaincu qu'il pouvait devenir célèbre grâce à ce sport. » Et donc, pour incarner donc, ce héros, ce marginal qui se met au tennis de table, il a décidé de choisir la superstar Timothée Chalamet.
Et oui, et avant même d'écrire une de ces lignes du scénario, le réalisateur a contacté Timothée Chalamet qu'il avait rencontré à l'occasion d'une fête pour un de ses précédents films qui s'appelait Good Time, qui est sorti, lui, en 2017, quelques mois avant la sortie de Call Me By Your Name, dans lequel joue le comédien franco-américain et qui a permis l'ascension fulgurante de ce jeune acteur. Au fil des années, ils sont restés en lien et ils ont nourri une amitié s'appuyant sur leur passé commun de petits New-Yorkais rêvant faire du cinéma. Et là, tu vas citer une nouvelle phrase du réalisateur.
Josh Safdie qui s'exprime à propos de Timothée Chalamet. « Je savais qu'il était lancé pour faire une carrière étincelante et devenir l'un des plus grands de sa génération, mais je savais aussi qu'il pouvait s'étrangler de rire en entendant une blague débile pendant qu'il mangeait un hot dog. Il y a une gravité singulière chez Timothée qui me semblait correspondre à la perfection au doux rêveur crédule qu'on avait commencé à imaginer. »
Et c'est vrai que là, dans ce rôle-là, Timothée Chalamet, ben voilà, il donne tout son art et c'est pour ça que le comédien a reçu un Golden Globe en 2026 pour ce film.
Et donc dans ce film, ce qui marque beaucoup, enfin toi, ce qui t'a marqué, c'est vraiment l'intensité des matchs de tennis de table qui sont filmés.
Ouais, tout à fait. Pour resituer les échanges qui sont vraiment vertigineux, qui sont donc très spectaculaires, plusieurs caméras, certaines ont été mises, placées en pleine ligne de tir, d'autres dans certains axes, permettant de donner un effet de documentaire. Moi, j'ai trouvé que les scènes étaient très bien filmées. Se déroulent dans des salles bondées pour une impression vraiment de grand spectacle. Il y a du bruit, du suspense, de la sueur qui accentue l'intensité du jeu et la qualité des joueurs.
Et ils ont aussi reconstitué entièrement un club de tennis de table new-yorkais.
Et oui, là, on va parler du chef décorateur de ce film qui a reconstitué le Lawrence, un ancien club de tennis de table qui est inspiré par une institution oubliée de New York située à l'angle de Broadway et de la 55e rue.
Et au-delà du club, ils ont aussi carrément reconstitué tout un quartier de New York.
Tout à fait. Le Lower East Side, pardon pour l'accent, qui était vibrant d'une atmosphère au cœur des années 50. Et c'est pour cela que le chef décorateur a décidé de ne pas reconstituer le décor en studio. À la place, il a utilisé des pâtés de maison autour d'Orchard Street, qui est un autre quartier new-yorkais qui lui est bien actuel, habillant certaines façades pour retrouver l'essence de l'époque.
Et alors un mot, David, peut-être sur la partition musicale, la bande-son du film.
Oui, qui est très très présent dans le film, qui vraiment souligne des textes et des scènes qui sont sans parole. La bande originale surprend parce qu'en fait, elle a été composée de différentes manières. Tout d'abord, le compositeur s'est inspiré du son des balles de tennis de table qui ricochent. Tout simplement, vraiment quelque chose de très très organique. Et après, vous avez un mélange de styles aussi bien avec des mélodies polyrythmées, des ostinatos de flûte des années 50, ou alors des synthés des années 80. Ce choix permet de capturer l'énergie inachevée du rêve de Marty, créant ainsi un lien entre les mondes du passé, du présent et du futur.
Et c'était quand même un gros budget, on peut imaginer, avec tout ce que tu nous as raconté sur la reconstitution des décors. C'est un film avec un énorme budget.
Oui, selon les chiffres, ce serait à peu près entre 70 et 80 millions de dollars, ce qui ferait de lui le film le plus cher jamais produit par la société de production A24, pardon, qui a produit le film, avec notamment The Smashing Machine, autre biopic sur fond de sport, porté par le comédien Dwayne Johnson et mis en scène par Benny Safdie, donc le frère de Josh, cette fois-ci.
Eh ben merci beaucoup pour toutes ces infos finalement assez factuelles. Et maintenant, un peu plus de ressenti intime. C'est quoi, toi, ton avis sur ce film?
Ben, en fait, on suit l'épopée de ce joueur de tennis de table. Alors, on le disait précédemment, c'est vrai qu'il est fourbe, c'est un escroc, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan personnel. Il est capable de tout, il sait aussi subir, mais toujours avec un seul mot d'ordre, être le meilleur. C'est là où le titre du film Marty Suprême prend tout son sens, ce qui est suprême et ce qui est au-dessus de tout. Le film, vous allez le voir, c'est un rythme soutenu, aussi bien sur les dialogues que dans l'enchaînement des scènes. Et c'est vrai que Timothée Chalamet interprète très bien ce jeune gringalet aux dents qui raye le plancher. Il donne tout son corps à ce personnage et le spectateur y croit à fond. Pour terminer, je dirais que c'est un récit épique. Vraiment, on est en plein cinéma et c'est du grand spectacle.
Eh ben merci beaucoup, David, pour cette chronique complète donc sur le film Marty Suprême à voir sur les écrans Sevenol. Merci.
Merci, Raphaël. À bientôt.
À bientôt. Et vous pourrez voir Marty Suprême en Cévennes, à Cassagnas par exemple, ce dimanche 21 juin à 20h30, à Florac la semaine prochaine, mercredi 24 juin à 21h, à Vébron dimanche 28 juin à 20h30 ou encore à Genolac mardi 30 juin à 21h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous retrouve demain pour un prochain épisode. Je serai d'abord en compagnie de Fred Régnier, documentaliste à l'Institut Agro de Florac, qui nous parlera des journées du vivant qui auront lieu les 30 juin et 1er juillet. Fabien Moutet viendra ensuite nous annoncer le programme du Festival des Tours du Monde qui se déploie à Chanac du 11 au 18 juillet. Et ensuite, on parlera de la fête de la transhumance sur le Mont Lozère ce dimanche, en compagnie de Julie Hébrard de l'Entente Inter départementale Causse et Cévennes, et de Thierry Ferrier, président de l'association qui organise la fête. Voilà, rendez-vous donc demain, jeudi à midi et des poussières précises, évidemment. Salut!
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.